nous sommes ensemble pour discuter, pour présenter l'ouvrage de Jean-Michel Freeman. Si vous venez visiter aux éditions Belle-Église dans la collection Hypothèse, dont je suis lui-même directeur scientifique et dont c'est les filles et la gérance, le livre L'art de la clinique, ayant pour sous-titre, on en parlera tout à l'heure, Les fondements de la clinique psychanalytique. Je voulais d'abord vous remercier de la confiance qu'il m'avait faite parce qu'il m'a donné un travail qui était rude, mais très plaisant.
Avec plaisir.
C'est-à-dire de mettre en forme les textes et de la mise en page, le travail, tout le travail qu'il y a autour de l'édition de cette ouvrage. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre assez volumineux, donc il y avait du travail. Mais c'était en même temps un travail très très agréable parce que ça m'a fait faire le tour de la question. J'ai fait mes grandes révisions. Oui, c'est un peu ça. J'ai vraiment eu l'occasion de repartir aussi la quantité d'ouvrages qui étaient cités en référence, des notes de bas de page, des quantité de choses qui vous permettent de creuser un petit peu la clinique et la clinique psychanalytique particulièrement. Alors c'est certainement pour ça qu'on m'a demandé de présenter cet ouvrage. Alors comment ce livre s'est construit? Je vais peut-être poser tout de suite la question, pourquoi maintenant? Pourquoi ce livre maintenant?
Voilà. En tout cas, merci à Mme Kindo et merci à Marcel Ritter qui est mon ami, mon enseignant, mon ancien, beaucoup de choses. Voilà, d'être là. Vous voyez, ça donne un peu à Mme Kindo qui a réactualisé un certain nombre de choses. Je dirais que c'est un livre qui est un essai de mise au point actuellement, de reprise à la fois, d'un certain nombre de textes qui concernent justement la clinique psychanalytique qui est, je vous annonce officiellement si vous n'êtes pas au courant, complètement rejetée. Alors, commençons par le début, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas à la mode. Alors, je ne vois pas très bien ce que vous faites déjà là, mais donc ce n'est pas du tout dans le coup. Et cette histoire consistait dans l'idée de redonner au fond les fondements de cette clinique psychanalytique pour essayer de faire passer à différents niveaux, et je crois que c'est un livre, c'est pour ça qu'il est volumineux, puisque nous avons donné un certain nombre de textes qui sont à la fois des textes, on pourrait dire, qui touchent à la question de la culture, que les textes qui travaillent autour de la psychanalyse proprement dite, ainsi qu'un certain nombre de textes même sur la question de la formation des analystes. Donc l'idée consiste à refaire un peu le point, poussé par la pression, on pourrait dire, du discours ambiant qui n'est pas tellement passionnant. Alors j'ai trouvé d'ailleurs que ce n'était pas ennuyeux tout le temps. C'est même lisible à certains moments, et je crois que ça devrait permettre... on pourrait dire, un certain nombre de travaux de se faire, de remise au point. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que dans ce livre, il est un peu le témoin... Bonjour Charlotte. Il est un peu le témoin, si vous voulez, de... Bonjour Sarah. Un peu le témoin du périple, périple analytique, qui a été le mien, et surtout les effets de rencontres qui se sont faits. C'est-à-dire, vous trouverez dans ce texte un certain nombre d'échanges, en particulier avec Lucien Israël, qui avait fait qui était intervenu à la faculté de psycho, où on était intervenus ensemble. Un texte concernant Mustapha Safran, qui a beaucoup marqué les choses à Strasbourg concernant la question de la psychanalyse, et aussi Marcel Ritter, qui a bien voulu faire la le préambule, l'introduction, et même Café Plus, au fond, qui a donné un peu une orientation à ce livre.
Je vais reprendre la parole.
Alors, je vous laisse.
Justement, avant la préface, je vais vous lire un petit extrait, puis après, je poserai une question à Marcel Luther. Je cite Marcel Luther. Dans ce livre, Jean-Michel Freeman nous invite à un grand périple à travers la clinique psychanalytique. En empruntant un parcours bien balisé, jalonné d'arrêts à des points de vue soigneusement choisis, qui se découvriront au fil de la lecture. Ces points de vue sont sans cesse articulés avec son expérience de psychanalyste, concernant en particulier le transfert, et accompagné d'un certain nombre d'hypothèses dont chacune mérite d'être prise en considération. Il nous invite également à un retour aux sources, au fondement de cette clinique, constamment présent de manière explicite ou en filigrane tout au long du texte. Cette préface, justement, nous a permis, enfin, lorsque les textes étaient présents, quand il a fallu les associer ou les classer, si on veut, ça a paru tout à coup comme une évidence de les mettre dans cet ordre-là. C'est votre préface qui nous a permis, en fait, de les articuler. Alors, comme je trouvais que c'était comme une évidence, j'allais vous poser la question, est-ce que c'était une évidence pour vous, quand vous avez lu tous ces textes, justement, de trouver le fil pour écrire cette préface ?
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout lorsque Jean-Richard Freeman a proposé d'écrire une préface pour son livre. J'ai eu un moment de suspens. Et je me suis demandé comment j'allais lui prendre pour échapper à ce que j'appellerais le piège étymologique du terme préface, qui, comme vous le savez, vient du latin prefatio, qui signifie quoi ? Donc il dérive lui-même de préfari, et qui veut dire d'avance. En l'occurrence, dire d'avance ce qu'un autre a dit. Ce qui n'est pas une situation confortable. Je me suis donc trouvé dans cette situation étrange d'avoir à dire ce que Jean-Michel Freeman a dit, sans pour autant le répéter, ni trahir ce qu'il a dit. C'est comme ça que j'ai lu le manuscrit. Et puis, au fil de la lecture, une question a surgi qui m'a paru être une question préliminaire à toute approche possible de la clinique psychanalytique, c'est-à-dire la question des fondements de cette clinique. Et c'est à partir de cette question que j'ai écrit, construit la préface, et il s'est trouvé que, par un mouvement à rebours, c'est cette préface qui a donc déterminé, c'est ça ?
Oui.
La subdivision du livre.
Tout à fait. Oui, c'était le fil.
C'est le fil. Bon, ça s'est passé à mon insu.
En revenant au titre, pourquoi, comment est-ce que vous définiriez cette clinique ? Il y a
cette,
tout de suite cette question dans le titre, l'art de la clinique. Comment vous définissez cette clinique ?
Alors, je ne voulais pas du tout appeler, je suis désolé, vous êtes sur moi. Je ne voulais pas du tout appeler ça comme ça, mais c'est après un débat un peu musclé d'ailleurs avec la directrice des RES. C'est-à-dire, l'idée, c'était de mettre sur ce comme titre il faut cliniquer, vous voyez ? Alors, ça commençait assez mal. Alors, j'ai quand même eu mon « il faut cliniquer » parce que nous avons eu une journée aujourd'hui sur « il faut cliniquer ». Donc, je me suis quand même débrouillé. C'est-à-dire, l'idée, le débat a été le suivant. C'est le fait de partir de la question des arts libéraux. C'était un peu le débat qui était à peu près en jeu, c'est-à-dire non pas de poser la question d'une clinique qui serait uniquement, qui serait thérapeutique, hein, ou une clinique qui serait uniquement technique, ou une technique, ou une clinique qui mettrait en place uniquement une théorie, ou uniquement un dogme, mais justement de trouver une formulation qui permettrait de nouer l'ensemble de ces approches, et surtout de provoquer une sorte de démédicalisation d'emblée de la question de la psychanalyse, ce qui est un point important. Et ensuite, moi j'ai tenu, alors on a aussi un deuxième débat, n'est-ce pas, j'ai tenu à mettre les fondements de la clinique psychanalytique en sous-titre, parce que le lecteur... Hein, normal, c'est normal. Voilà, moins près ou plus près, comme ça, ça va. Donc, c'est-à-dire d'essayer, dans ce texte qui filtrait à sa relecture, c'est de qu'apparaissent les problèmes, les points cruciaux de la psychanalyse. Ce qui explique aussi son épaisseur, et puis le fait qu'il faudrait peut-être donner les différentes rubriques qui ont été données, parce qu'on se rend compte qu'il y a une spécificité de la clinique psychanalytique, justement, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de quelque chose qui engage celui qui vient à l'analyse, mais qui engage aussi, d'une autre manière, le psychanalyste lui-même.
Donc, on va partir dans les différentes parties du livre. Le livre est subdivisé en 5 grandes parties qui introduisent le lecteur, qu'il soit profane à la psychanalyse ou non, aux multiples questions posées par cette clinique. Alors, la première partie, c'est la technique psychanalytique.
Oui, bon, c'est pas étonnant hein, que le livre commence par la question sur la technique, mais auparavant, je voudrais quand même ajouter encore un mot. Il faut justifier le terme de psychanalytique qui est adjoint à clinique. Ce terme veut dire que cette clinique est non seulement étroitement, mais essentiellement, par essence, liée à la pratique de la psychanalyse, à l'expérience psychanalytique. Il faut le dire au départ, et il faut aussi préciser comment elle se situe par rapport à la clinique dite médicale. Il y a plusieurs manières de distinguer. J'ai retenu là pour ce soir de me référer, de les distinguer les deux cliniques par rapport, à partir de leur rapport au savoir. C'est ce qui me paraît le plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un médecin ? On attend d'un médecin qu'il sache. Non seulement on attend de lui, mais il doit savoir. Ça lui est asséné tout au long de ses études. Il n'a pas le droit de ne pas savoir. Le psychanalyste, lui, il est supposé savoir. Ça, c'est une autre position. Il est supposé savoir, un savoir lui est prêté, mais en fait, il ne sait pas plus. Au départ, il ne sait pas plus que la personne qui lui fait confiance pour venir s'adresser à lui. Mais c'est cette personne qui s'adresse à lui qui, elle, sait. Disons qu'elle n'est pas sans savoir. Ce qui veut dire, en clair, que ce savoir ne lui est pas directement accessible et que tout l'enjeu consiste donc à ce que ce savoir, que nous appelons le savoir inconscient, lui devient accessible. Voilà, je crois, une manière simple de distinguer la clinique, de la spécifier par rapport à la clinique médicale. Est-ce que tu veux ajouter
quelque chose ? Oui. Ce que je veux dire, il y a quelque chose d'étonnant, c'est de savoir, par exemple, que ce livre-là, il y en a d'autres, c'est un peu le fruit de 40 ans de travail, en gros. Et c'est quand même incroyable, qu'on puisse avoir envie de continuer. Tout à fait, quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, par rapport à ce que vient de dire, je ne suis pas sûr que les médecins supportent aussi longtemps les choses. C'est étonnant. Il n'y en a peut-être pas tellement, d'ailleurs, qui supportent, mais quand même, c'est un point à repérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de précis qui tourne autour du fait qu'on essaye de pointer, de toucher, de chercher quelque chose qui tourne autour du désir inconscient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une quête, une espèce de quête énigmatique, bien sûr, pour l'analysant, qu'on appelle l'analysant, celui qui participe de manière présente aux choses, et pour l'analyste, qui lui, il est dans une autre position, mais il ne sait rien de ce qui va sortir. À quelle occasion ? À l'occasion de ce qu'on appelle, hein, c'est là où c'est plus une technique, mais de la techné, c'est là où c'est un art, justement, qui est la question de la règle fondamentale. C'est-à-dire cette règle fondamentale qui consiste à dire, dis tout ce qui vient, comment il disait Freud, dis tout ce qui vient, ça sera formidable. Et là, c'est une position d'emblée qui est tout à fait différente de ce qu'on connaît.
Oui, bon, au point où nous en sommes, il faut rappeler le mot d'entrée dans cette idée. Le mot d'entrée, enfin, ce pourquoi quelqu'un s'adresse à un psychanalyste, c'est un moment de souffrance. C'est un moment de souffrance qu'il s'agit, dans un premier temps, pour nous et pour lui, de reconnaître comme ce que nous appelons un symptôme. Un symptôme, pas au sens médical du terme, ce qui serait un signe d'une maladie, mais un symptôme au sens psychanalytique du terme, ce qui veut dire un message. Mais un message brouillé. Un message brouillé, un message, comme dit, dont le sujet n'a aucune connaissance, sinon que ça fait souffrir. C'est un message en souffrance, en quelque sorte. C'est par cette voie qu'on aborde la clinique psychanalytique. Alors, comment est-ce qu'on aborde ? C'est ça ton premier point. C'est ça ton premier point, la technique analytique. C'est pas étonnant que tu aies mis ça en premier point, puisque la clinique est liée, donc par essence, comme je l'ai rappelé au départ, à l'expérience psychanalytique elle-même. Mais comment entendre ce terme de technique dans notre champ, qui est, ne l'oublions pas, le champ de l'inconscient. Comment y a-t-il une technique pour mettre la main sur l'inconscient?
Alors, la question, est justement, c'est là où on rentre dans une extrême difficulté, c'est que c'est la question technique ne revient pas du tout à la technique telle qu'elle apparaît dans d'autres techniques. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec ce qui apparaîtrait du côté des TCC, ce qui apparaîtrait du côté de la Gestalt, qui apparaîtrait du côté même des consultations, etc. C'est là où il y a une extrême difficulté, c'est-à-dire que l'analyste est impliqué dans sa neutralité propre, c'est là où c'est important, pour pouvoir écouter l'autre. C'est-à-dire, c'est déjà une technique très particulière, c'est-à-dire qui consiste, il ne suffit pas d'acheter un joli Voltaire d'un côté et de l'autre côté un divan, et puis de dire, voilà, maintenant vous allez parler. Le problème, c'est, si je puis dire, l'état psychique, voire mental, de l'analyste est en jeu. Et c'est là où il y a un truc très important, mais pas n'importe comment. C'est à la limite quelque chose de technique qui vise au fait que lui-même, l'analyste, a fait une analyse. C'est-à-dire, il a travaillé son rapport à l'inconscient.
Alors, qu'est-ce que ça lui a apporté, son analyse ? Ça lui a apporté, je dirais, une grande sensibilité, dans le meilleur des cas, techniques verbales. Ce que Freud appelait les techniques verbales, en particulier à propos du mot « duit », hein, du mot d'esprit. C'est-à-dire au mécanisme langagier générateur de sens. C'est par ce biais-là que Freud s'est vu s'ouvrir tout d'un coup, en cette fameuse nuit de, je ne sais plus quand, 1897, le rêve d'Irma, l'injection faite à Irma. C'est par cette voie-là, par des jeux de langage, que Freud s'est vu s'ouvrir soudain les portes de l'interprétation des rêves. Puis du mot d'esprit dans sa relation à l'inconscient, ce qui lui a permis d'affiner ses techniques, et ensuite de toute la série des formations de l'inconscient, telles l'oubli, le lapsus, la manqué, jusqu'au symptôme.
Est-ce qu'on peut dire, oui, dans le livre, on trouve des textes sur la règle fondamentale, c'est ça qui est important,
oui, aussi, oui.
Ça c'est important à cet endroit-là. De dire ce que vous trouvez des trucs sur la règle fondamentale, qui est quand même cette règle tout à fait spécifique, hein, qui a été amenée par Freud, et qui est une question technique, mais pas seulement, qui pose des questions théoriques importantes. Donc, on trouvera des éléments sur la règle fondamentale, aussi sur ce qui tourne autour justement par les juifs. Hein, du mot d'esprit, la question du rêve, qui n'est pas d'ailleurs dans ce chapitre, je me rappelle maintenant, mais où le point qui est très important, c'est de voir qu'il y a deux choses qui ont un rapport étroit, mais qui ne sont pas la même chose, qu'on ne peut pas confondre. C'est d'une part les formations de l'inconscient, qui sont une chose, qui est la première découverte de Freud. Il n'a pas inventé d'abord la psychanalyse, il a inventé d'abord, il a, si je puis dire, reconnu l'inconscient. Voilà.
La règle fondamentale, vous pouvez préciser un petit peu, parce qu'on est depuis ce matin dans la sauce.
Dans la règle fondamentale.
Oui, donc est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la règle fondamentale?
La règle fondamentale, tout simplement, veut dire que l'inconscient n'est pas accessible par la, ni par la réflexion, ni par un travail de volonté. Il n'est accessible ici. Il n'est accessible que en invitant quelqu'un à dire ce qui lui vient à l'esprit, sans préjuger de dire n'importe quoi. Ce que Freud a appelé die Einfälle, hein, ce qui lui tombe dedans, ce qui lui tombe dans la tête. C'est ça. Et c'est de cette manière, et avec la manière de dire, c'est bon, les Einfälle en français, on parle d'association d'idées.
Mais techniquement, c'est ça qui est amusant. Parce que techniquement, il y a un texte de Freud sur ça que j'ai repris, et après ça a été repris par quelqu'un qui s'appelle Ferenczi, hein, qui a beaucoup travaillé cette histoire comme un fou, c'est le cas de le dire. Mais où Freud il raconte la règle fondamentale, par exemple, bon, maintenant, vous allez vous conduire, mon cher, comme un voyageur qui regarde passer les pensées, et vous allez faire attention de ne pas privilégier une de pensée. Vous allez laisser s'écouler les mots. C'est-à-dire, où au fond, quelque chose qui est pointé d'emblée, c'est que l'analyste est impliqué dans la règle fondamentale. Ce n'est pas une règle technique au sens.
Absolument. Oui, et il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie chez l'analyste qui est lui-même de ne rien privilégier a priori de ce qui lui est dit, c'est-à-dire de tout accueillir avec la même attention.
Le temps.
Qui porte d'ailleurs un nom, oui, chez Freud, hein, c'est, bon, je vais dire en allemand, en termes de la langue de Freud, c'est la gleichschwebende Aufmerksamkeit, traduit dans une traduction en français par une attention d'égal niveau. C'est ça. Une attention d'égal niveau, c'est-à-dire qu'il ne privilégie a priori rien. Ce qui pose déjà toute une question, ça on en parlera peut-être tout à l'heure, concernant le rapport de l'analyste à la théorie, à ce qu'il sait, à ce qu'il pense, qu'il devrait peut-être se dire, etc.
Ça, bon, ça c'est vers 3 heures du matin.
Je vais juste dire un mot encore sur les règles fondamentales.
C'est le dénommé Ferenczi qui était intéressant parce qu'il a été, d'abord, il a été vice-ministre, voilà, Budapest et compagnie. Et bon, je ne vais pas en aller là-dessus, mais surtout, il a introduit, comme quand il était président de l'international, il a introduit, lui, la deuxième règle fondamentale dans les rapports des choses. La deuxième règle fondamentale, qui est quand même extraordinaire, c'est l'analyste doit lui-même être analysé à fond. Ah, à fond. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça va être très à fond. Lui, il était tellement à fond, il est devenu tout à fait fou. Hein, à fond, fou. À fond, devenu. Et surtout, après, il a, c'est celui-là même qui disait... il faut absolument l'analyse, tu peux être analysé à fond la quête. Vous parlez des analyses, elles duraient maximum 6 mois, c'était le maximum à l'époque. Et c'est celui-là même qui, au fond, a terminé dans ce qu'on appelle l'analyse mutuelle. C'est-à-dire le fait, ça j'en parle beaucoup, hein, Ferenczi, j'ai une période très fascinée. Faut pas le dire. Et où il était fasciné, et où je me suis rendu compte que la position de Ferenczi était faire l'analyse mutuelle. C'est-à-dire, on décide tous les deux de s'analyser mutuellement. Ça serait une belle choucroute, hein, oui. D'accord ? C'est-à-dire de situer la situation analytique comme une situation à deux. Hein. Chacun analyse l'autre. Vous voyez un peu ? C'est pas mal. Bon.
Oui, tout juste un mot avant de passer.
Non, vous laisse pas parler.
Avant de passer au point 2. Définir donc la clinique psychanalytique à partir de ce qu'il vient de se dire, les techniques verbales, à partir des formations de l'inconscient que j'ai rappelées tout à l'heure, ben, ça a quand même une conséquence qui n'est pas mince, c'est-à-dire que la différence entre le normal et le pathologique, ben, il tient plus. Il s'estompe, voire il s'efface. C'est une frontière qui devient tout à fait perméable. En effet, qu'est-ce qui d'entre nous n'a jamais rêvé, hein? Qu'est-ce qui n'a jamais oublié, qu'est-ce qui n'a jamais fait l'acte manqué, voire eu des symptômes, compter les carreaux quand il marche dans la rue.
Alors,
c'est...
continue
C'est-à-dire que cette clinique nous concerne tout un chacun en tant qu'être humain, en clair, en tant qu'être parlant. Puisque l'inconscient, c'est quand même ce qui est. C'est déterminé par le fait que nous sommes des êtres parlants, que nous tombons dans le langage à la naissance.
Il est peut-être devenu fou, mais il est fort agréable à lire et fort sympathique à lire.
Ah, mais il n'était pas fou.
Il y a des choses très intéressantes.
Ma fascination,
oui.
Regardez plutôt mon livre d'abord.
Alors, vous disiez que chaque analyse était singulière, nouvelle.
Oui.
Mais la clinique analytique présente quand même des invariants, des faits de structure dans le rapport du sujet, par exemple, au désir.
Oui. Alors ça...
Là, on est dans la deuxième partie de
l'ouvrage.
Parce que sur les structures...
Oui, donc la deuxième partie du livre traite de la notion de structure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de structure? C'est un terme que Lacan a introduit à partir de la théorie des ensembles, où il désigne un groupe d'éléments formant un ensemble covariant, c'est-à-dire où un élément varie en fonction de tout avec les autres et en fonction de tous les autres. Alors, dans le champ qui nous intéresse, le champ de la psychanalyse, de quoi s'agit-il? Il s'agit des éléments qui participent, qui sont déterminants pour la constitution de ce que nous appelons le sujet et le désir. Et ce sont ces éléments-là qui déterminent la structure et qui permettent de distinguer ce qu'on appelle une structure névrotique, une structure perverse, une structure psychotique, plus d'autres structures. Et c'est là où j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce qui est, je pense, ta trouvaille.
D'accord.
En tout cas, une hypothèse.
Oui.
C'est la question de la structure. L apostrophe A, trait d'union structure.
Et puis d'abord, vous voyez, Marcel, il est tranquille, il travaille comme un ami, il va dans son coin, il fait son œil. Mais par exemple, la subdivision névrose, psychose, perversion, c'est absolument plus à la mode. On n'est plus du tout dans le coup. Nous sommes des êtres profondément éculés. Et je choisis mes mots, c'est pas du tout. Non, mais c'est-à-dire, c'est vraiment, il faut se rendre compte que dans les nosographies actuelles, ce triptyque n'existe plus. Et non seulement ce triptyque n'existe plus, mais en plus, les névroses, il n'y a plus. Il n'y a plus de névrose. Donc, vous êtes rassuré, vous n'avez plus de névrose. Donc, vous êtes psychotique, ça marche. Et perversion, c'est en train de virer. Ça vire mal. D'ailleurs, ça vira rarement bien. Mais, non, mais c'est un truc très important. C'est-à-dire, là, on s'appuie sur un triptyque structural qui est complètement éculé. Les psychiatres n'ont plus cette subdivision en jeu. En psychose, progressivement, c'est quelque chose qui disparaît. Et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, le véritable danger est ça. C'est-à-dire, se référer uniquement à un système de signes et plus à des symptômes,
à des comportements.
Alors, pour dire. Il s'est passé quelque chose à l'époque sur le plan des structures. En ce qui concerne les structures, en particulier de l'anorexie, je ne sais pas ce qui m'avait pris, à l'époque, pourtant j'avais de l'appétit, mais la question, c'était les anorexies qui m'intéressaient beaucoup. Et j'ai justement compris plus tard pourquoi. Ce n'est pas toujours un spectacle et un travail très, très disons, porteur. Et à l'époque, j'étais pris dans trois cliniques, pas des cliniques médicales. D'un côté, j'avais commencé le cabinet. De l'autre côté, j'avais la clinique psychiatrique. J'étais praticien en clinique psychiatrique. Et d'autre part, j'étais attaché en médical pour voir les anorexies. Bon, d'ailleurs, pour vous dire la petite histoire, c'était assez intéressant. Ça m'avait beaucoup frappé. J'avais beaucoup envie d'analyser les chefs de clinique. Qui à l'époque en médecine allait voir les anorexiques le samedi dimanche, surtout le dimanche, pour voir s'ils n'avaient pas mis leur nourriture dans les pots de fleurs. C'est-à-dire qu'ils venaient le dimanche, ils étaient enfermés, ils devaient seulement voir leur maman et leur papa après un certain nombre de kilos, et alors on leur amenait là-haut, et puis elles mettaient effectivement le manger dans différents endroits, et les chefs de clinique partait à l'affût de l'inspection terrible de voir s'il n'avait pas mis dans le pot de fleurs, dans les toilettes, il avait bouché les toilettes. Enfin, c'était un spectacle affligeant de perversion. Bon, de l'autre. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je voyais la différence à propos des différentes cliniques, de ce qui pouvait se passer dans cette clinique médicale qui était quelque chose de très oppressif, on pourrait dire comme ça. D'un autre côté, cette clinique au niveau de la psychiatrie, où là, on peut dire, ça avait à voir avec un certain nombre d'essais médicamenteux, donc essayer de traiter par médicaments, et au cabinet, où parfois je crevais de trouille d'ailleurs, où les gens continuaient à dire, oh, moi ça va très très bien. Ah, bah, écoutez, moi ça va bien, donc depuis que je parle chez vous, c'est super. Et vous appreniez par ailleurs qu'elle avait perdu encore 2 kilos. Oh, ça va de mieux en mieux. Je fais de plus en plus de sport. Hein. C'est vrai. Mais tout ça pour dire, donc ça veut dire, entre le dire de quelqu'un, sa demande et ce qui se passe réellement, vous voyez, il n'y a que la psychanalyse pour arriver un peu à mettre les plans, d'arriver à mettre en évidence les différents plans. Donc je dis ça parce que c'est là où on voit que la clinique psychanalytique, ce sont des outils, je l'aurais placé, de formation pour les autres. Vous voyez, les chefs de clinique, au lieu de perdre leur dimanche à venir regarder les pots de fleurs, il serait mieux de s'interroger sur ce qui se passait
par exemple chez la maladie. Donc ça, c'est là où ce qui m'est apparu à ce moment-là, c'est l'idée d'une instructure symbolisante. Là, ça se corse pour ceux qui ont déjà eu l'insomnie. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on ne peut pas dire qu'obligatoirement c'est quelque chose qui soit fou, psychotique. On ne peut pas dire que ce soit névrotique, mais l'anorexie apparaît souvent comme une lutte terrible, effrénée. C'est-à-dire une lutte contre un autre qui est vécu comme gaveur. Alors, le schéma de départ de l'anorexie, c'était on mettait en place la mère gaveuse, vous savez, comme une oie, qui donnait à manger, hop, vas-y, encore une cuillerée, mon papa, mais si, tu ne partiras pas avant de vider l'assiette, vous voyez tout ce que je veux dire. Donc, bon, bref, et là, je me suis rendu compte que c'est le gavage, ce n'était pas obligatoirement un gavage alimentaire. Ça pouvait être un gavage d'un autre type. Hein, le gavage d'une mère qui s'occupe trop de son enfant. Hein, qui le... et puis que finalement, l'anorexie, le mode anorexie, il faudrait appeler autrement, était un climat de lutte pour lutter contre ce gavage. Un dernier recours. Ce qui fait que ça conduit à une conclusion terrifiante. On peut mourir en essayant de vivre par rapport au désir je le souhaite. C'est juste ça qu'on va être un peu piété. Bon. Je profite du sens de ce que tu entends passer. Oui. Puisque tu parles d'un secret symbolisant, dans ce chapitre-là, vous trouverez aussi justement les textes à propos de l'hystérie. Il y a les textes d'Israël et puis les textes de dialogue avec Israël. Et je voudrais dire quelque chose sur l'hystérie aussi à propos de la structure. Il y a quelque chose qui se dégage du côté de la clinique psychanalytique, c'est là où on est en plein, c'est que, quelle que soit la structure, que les gens soient fous, pervers, ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a, on essaye d'atteindre une espèce d'hystérisation du discours. C'est-à-dire le but de l'opération, la transférisation, la mise sous transfert, la mise au fond de cette relation thérapeutique, qui n'est pas seulement thérapeutique, ça conduit, c'est-à-dire, d'induire, d'aller dans le sens d'une, on pourrait dire, de se référer à une certaine hystérisation, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, d'arriver à mettre l'accent sur la question du symptôme. Et je termine sur ce chapitre, il vous suffira de lire les 400 pages. En ce qui concerne la perversion, ensuite, à propos des structures, ce qui m'avait beaucoup travaillé, qui continue à travailler, c'est la question de la perversion, des perversions. Et ça, je vous conseille de regarder parce que on voit qu'il y a un texte en particulier sur l'exhibitionnisme et surtout il y a un texte sur la question du scénario pervers. Alors je voulais dire ça à propos du fantasme. Parce que c'est un texte qui avait encore été lu à l'époque par Lacan, c'est un texte intéressant, et puis qui m'avait été critiqué à l'époque par... on avait beaucoup débattu de ça. Parce que c'était un de mes premiers, comment on pourrait dire, accès à la théorisation de la pratique, et la perversion, c'est un terrain qui nous intéressera beaucoup concernant le monde actuel. Donc je termine. C'est-à-dire... La perversion, c'est un certain nombre de mécanismes spécifiques qui, à présent, sont beaucoup passés, on pourrait dire, dans la vie dite communautaire. C'est-à-dire, ce sont des mécanismes que vous retrouvez dans la vie tous les jours. Je ne vous donne pas d'exemple. Vous parlez
aussi dans les structures, vous pouvez continuer un petit peu dans les structures. Vous parlez des lésions psychosomatiques.
Ah oui,
c'est aussi un chapitre qui est un peu d'actualité.
Oui. Oui, c'est-à-dire. Ça, parce que à l'époque de Lucien Israël, il avait réussi à développer un certain nombre d'antennes dites de psychosomatiques, c'est-à-dire dans chacune des cliniques qui avait comme ça un travail qui se faisait sur la question psychosomatique. Alors, psychosomatique, on peut dire comme un mot théorie,
ne se confond pas avec justement la question de la conversion qu'on trouve dans l'hystérie. C'est-à-dire dans l'hystérie, c'est pour ça qu'on prend ce modèle, c'est une expression par le corps de conflits inconscients. C'est-à-dire, par exemple, si je suis place des berges, je me mets à faire une crise ou une paralysie du bras, vous voyez, je ne peux plus, hein. Je suis pris, au fond, je fais une crise hystérique, c'est-à-dire, je suis pris dans un mécanisme qui est directement en rapport avec l'inconscient, qui est une formation de contrôle. La somatisation et la psychosomatique, moi je préfère le mot hein, qui va faire marquer le somatisation que le psychosomatique, parce que la psychologie, on ne sait pas ce que ça va bien faire là-dedans, mais bon. C'est-à-dire, c'est le fait, la somatisation repose sur la lésion, repose sur une lésion réelle. Par exemple, si vous avez un cancer, si vous avez une rectocolite, si vous avez une paralysie réelle. C'est-à-dire, le questionnement là qui est important, c'est de savoir est-ce que, vu sous l'angle de l'inconscient, est-ce qu'on pourrait trouver, c'est une énigme, c'est une question, est-ce qu'on peut trouver un certain nombre de mécanismes au niveau de l'inconscient qui expliqueraient ou qui expliciteraient un certain nombre de lésions qui se provoquent. Alors je ferai autour de quoi je partais concernant cette hypothèse. C'est important que vous fassiez préciser les choses. C'est par rapport à quelque chose d'assez étonnant, qui est un peu miraculeux, un peu magique. Ce qu'on repère quand même assez souvent, quand quelqu'un qui est en analyse, je n'ai pas dit qu'on peut faire de l'analyse à partir d'une lésion, fait une lésion, c'est-à-dire fait, comment ça fait, ce qu'on appelle une maladie, hein, une lésion, on repère quand même assez souvent que ce n'est pas qu'on évite quoi que ce soit, mais que le travail analytique permet assez souvent d'accélérer, on pourrait dire, un certain nombre de guérisons. C'est-à-dire plutôt que ça fonctionne, donc ça a l'air de fonctionner un peu par rapport à un certain réel qui peut se déclencher dans certaines conditions. Donc voilà, je dirais, c'est pas hors transfert cette histoire. Si ça se passe, quand quelque chose surgit. Et il y a eu des scènes terribles dont j'ai été témoin. C'était à l'époque, vous savez, où il y avait la question du sida qui ne pouvait pas du tout, pas du tout de traitement. Et un certain nombre j'en avais vu plusieurs, gens qui étaient, on n'avait pas de traitement, qui étaient à la fin de leur vie, qui étaient en analyse déjà et qui ont eu attrapé le sida. Et ils ont continué, ça c'est extraordinaire, alors que la médecine est considérée absolument terminée, incapable de faire ce qu'ils veulent. Ils ont poussé, continué à venir à leur séance pour continuer quelque chose lors du travail de verbalisation. C'est-à-dire quelque chose s'est poursuivi, et ça a beaucoup étonné les médecins, que les gens, bon, ça sont toujours survivants, hein, mais savoir qu'il y a des effets de la parole qui sont absolument considérables et qu'on ne connaît pas. On ne va pas dire qu'on lui pige quelque chose. Mais il y a un constat, et il faut savoir que la psychanalyse, c'est une science jeune.
Alors, on passe
à la troisième partie.
À la troisième. Vous avez autre chose.
Allez.
Alors, vous interrogez donc dans la théorie